C'est grave, Doc.
Namasté, les docs. Aujourd'hui, travaillons nos sens, réveillons-nous dans le corps d'un autre. Par exemple, celui de Gilbert. Mieux que de subir le réveil avec en soi l'incroyable talent d'un tout autre Gilbert. Osons. Mais vous êtes aujourd'hui Gilbert Montagnier, ça ne s'invente pas. Parler montagne et prendre des risques en changeant de regard, c'est grave, Doc. Mon humeur du jour ne peut pas être brève à la manière de celles et ceux qui vivent la montagne ambiance. Plus vite je passe, moins j'ai de chance d'y passer. Déjà, montagne, science m'évoque mes rencontres avec les reportages de Nicolas, bien avant qu'il ne soit ministre de la communication environnementale, ou Maurice, Katia, Alaise, Haroun, Contre-Allègre sur les volcans du monde. Et je pense aux rencontres montagne-science suivantes le 12 janvier 2018 à Clermont, instant publicité. Mais si je pense montagne et risque, dois-je penser avalanche, coulée de boue? La montagne n'est-elle qu'un objet d'étude? Et pour l'amour du risque, doit-elle être réduite à un côté dangereux pour l'homme? Qu'en est-il du risque de connaître une amitié partagée sur le fil des crêtes, attachés ensemble à la vie, guider et se laisser guider de lignes acérées en courbes voluptueuses, faire l'amour au fond de cette vallée et après avoir atteint le sommet, c'est grave, Doc, de conquérir des sommets en croyant conquérir des vierges alors que tant d'autres y ont posé les mains, et plus encore, être déçu par un Mont Blanc aussi bondé que ce studio, se torcher la gueule à la Chartreuse ou à la Gentiane le soir au refuge, expérience scientifique en altitude, être pris d'un vertige assourdissant devant la simplicité d'un paysage et le croire immuable. Pour l'amour du risque de grimper, décoller, prendre de la hauteur, partager le ciel avec des aigles et quitter la terre des vautours, sentir le fauve durant plusieurs jours lorsque l'hygiène intime laisse à désirer, être submergé par les émotions au cœur d'un monastère tibétain et trouver refuge pour sa spiritualité, namasté. Avoir en tête ce refrain qui ne vous quitte pas, étoile des neiges, c'est grave, Doc, de mettre un pied devant l'autre pour aller de l'avant ensemble, errer sur des glaciers de plus en plus crevassés qui rappellent nos propres fêlures, faire confiance à soi-même, à l'autre, à quelques broches métalliques, faire de nouvelles expériences scientifiques, plats lyophilisés, café à la neige fondue. Pour l'amour du risque, de soif, d'y revenir, de fracture, de sa fermeture d'esprit, de coupure au futile. Faire face à ses peurs, les gérer, ne pas improviser, prévoir les dangers. Pester des heures au fond de sa tente après les allumettes oubliées en bas dans la voiture et vérifier 50 fois sa frontale de peur d'être envahi par l'obscurité. Devoir prendre position sur le loup, les ours, les cons, les modifications climatiques, c'est grave, Doc. De garder en tête de devoir revenir avant tout, d'inscrire ses pas dans ceux d'autres amoureux, de saussure en deux maisons, rébuffa, frachon, tesson, dodé, terré, entendre encore et toujours les mêmes histoires d'Ahu, Yeti, et être pourtant le premier à les distiller, devoir s'extirper du fond de cette crevasse comme du ventre de sa mère pour vivre encore. Pour l'amour du risque de s'enivrer dans des fêtes de village, partager les jouissances de cité qui vivent chaque printemps comme une renaissance, avoir pour compagnon ce livre qui berce le soir, tandis qu'il pèse la journée au fond du sac. Apprendre à aimer la truffade et la distinguer de l'aligot, se faire choper en étudiant les champignons hallucinogènes du Sancy. La montagne est un formidable terrain d'aventure humaine, et la science une sorte d'escalade intellectuelle dans sa quête de vérité. Mais quelle utilisation l'homme fait-il de tout ceci? Pour un autre Maurice, avant qu'il ne devienne un peu cet autre Gilbert, était-ce prendre le risque de mentir toute une vie sur un sommet peut-être jamais atteint? Moclic Herzog, Annapurna, ou pour Macron de la récupérer dans sa accordée des riches, l'homme est-il un danger pour la montagne? Citation philosophique de notre Gilbert, sur un plateau qui sentait un peu trop la poudre, la blanche, il y a des gens qui ont les yeux en magasin, mais pas l'esprit. Car ouvrir les yeux sur la montagne, aujourd'hui, c'est prendre conscience qu'elle est sans doute un peu tout ceci, mais surtout que sur l'autre versant, juste en face de celles et ceux qui la pratiquent toute la journée pour leurs activités, loin de la chaleur de ce studio, d'autres, maintenant, pas encore réfugiés, souhaitent simplement la traverser pour rejoindre le territoire français. France, paradis blanc, trouver refuge en risquant la mort pour vivre, tout simplement. Alors, peut-on dire que le risque compte tant que l'on est vivant ?
Bonsoir à toutes et à tous, Barbara sur Radio Campus pour C'est Grave Doc, l'émission radio de Doc Tauvergne, une émission de vulgarisation scientifique. Alors vous venez d'entendre le billet d'humeur, le classique billet d'humeur ou billet des mœurs de Frédéric Massé, un billet d'humeur qui annonce des mœurs, qui annonce le thème de ce soir, montagne, science et risque. Alors pour cette émission de ce soir, un sommaire assez lourd, avec beaucoup d'invités, donc a priori vous devriez apprendre beaucoup de choses. Alors pour commencer, il y aura la chronique de Lucie Poulet, doctorante en génie des procédés biologiques, mais surtout spécialiste de l'espace, qui nous parlera donc des montagnes dans le système solaire. Une première chronique pour amener à un premier débat qui sera consacré à la question de savoir si la montagne est un risque pour l'homme, un débat pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir ce soir alors Philippe Laboisie, chercheur au laboratoire Magma et Volcans et à l'Observatoire de physique du globe de Clermont, Université Clermont-Auvergne. Il est également donc directeur adjoint de l'OPGC, donc l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, au sein duquel il assure la coordination du pôle de télédétection des volcans, rattaché au service national d'observation en volcanologie du CNRS. Beaucoup de choses. Et encore, hein, je vous assure, pourtant j'ai coupé. Mais ce soir, on a des invités avec des très longs CV et beaucoup de compétences. Pour le même débat, nous recevrons deux spéléologues. Donc Jean-Michel, j'ai mangé votre nom. Non, c'est vous. Dites-le dans le micro, ce sera mieux. Hein.
Donc Jean-Michel Otawan.
Tout à fait. Ah, vous voyez, en plus, j'aurais sûrement dit avec une petite faute de prononciation. Donc, c'est très bien. Donc, Jean-Michel Otawan et Olivier Pigeron. Donc, ils sont tous les deux spéléologues dans la région et qui vont participer également à un peu aux montagnes, rencontres montagne et science, il me semble. Je vous présente juste comme ça. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, mais...
Bah, écoutez, non, c'est très bien.
C'est très bien. Donc, trois invités pour ce premier temps de débat. Ensuite, nous reviendrons avec un petit classique, la chronique d'Antoine Vernet, notre docteur en écologie, et Dame Naturelle en pense quoi. Et ce soir, il nous pose une question pas très française. Qui dans la cordée? Une chronique qui amènera donc le deuxième temps de débat de ce soir. Non plus la montagne, un risque pour l'homme, mais l'homme, un risque pour la montagne. Deuxième débat pour lequel j'aurai le plaisir d'accueillir Iris Lochon, doctorante à l'INRA, qui participe notamment à l'organisation des rencontres montagne et sciences. Finalement, qui pourrait être une invitée classique de l'émission, hein, doctorante. C'est plutôt commun ici, mais elle a un sujet de thèse qui pourrait finalement vous poser plein de questions. Hein, les effets des amendements calciques sur les émissions de gaz à effet de serre et la multifonctionnalité des prairies de moyenne montagne. Un titre de thèse classique finalement, puisqu'il est assez barbare. Et nous recevrons également Fanny Sorbader, volcanologue, accompagnateur de moyenne montagne et circassienne, qui a monté sa propre boîte Création Volcan et qui travaille pour le Labex Clairvolc et qui est également membre du collectif d'organisation des rencontres Montagne et Sciences. Et enfin, pour terminer l'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir encore un invité pour la chronique Science Sensible. Il s'agit de Guy Coulangeon, président de l'association L'Ivoirien, qui est coordinateur du festival Culture en tous sens. Il est aveugle tardif, même si, selon ses dires, il n'a pas complètement perdu la vue. Il est ancien sportif de haut niveau. Il a pratiqué beaucoup de sports de montagne, le ski de fond, l'escalade en rocher non encadré, même si ces pratiques-là n'étaient pas à haut niveau. Et ce soir, il nous parlera donc de la montagne et du handicap. Un gros programme. Ce que je vous propose, c'est de commencer sans plus attendre en laissant la parole à Lucie.
Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.
Space exploration.
Discovery Houston, recommend vector transfer to the BFS.
Roger all, Discovery.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des montagnes et des volcans dans le système solaire. Alors pour commencer, je vais vous demander de me citer une montagne, la plus connue et la plus grosse du système solaire.
Le Mont Olympe.
Vas-y.
Le Mont Olympe. Le Puy de Dôme.
Non, bah alors là du coup c'est le Olympus Mons qui gagne sur
ouais,
Mars.
Ouais, mais il triche.
Ouais. Le Puy de Dôme est pas encore assez gros. Mais bravo, c'est bien ça. Alors l'Olympus Mons c'est plus gros que tout ce que vous pourriez imaginer. Il fait 22,5 km de hauteur. À titre de comparaison, sur Terre, un avion de ligne vole au plus haut à 13 km. Ensuite, son diamètre, 624 km. C'est environ la taille de l'Italie. Alors, est-ce que ça va? Vous faites une idée du monstre? Il est situé au nord-ouest de la chaîne de volcans Tarsis Montes, sur l'équateur de la planète Mars. Dans cette chaîne de volcans se trouve aussi le deuxième sommet le plus élevé de Mars, Ascraeus Mons, qui fait 18,2 km de haut, Arcia Mons, 17 km, et Pavonis Mons, 14 km. Olympus Mons, c'est un volcan bouclier, comme les volcans Mauna Loa, Mauna Kea et Kilauea, de Hawaï. Ils sont donc de type effusif, en forme de cône, généralement peu élevés mais très larges, qui rappelle donc la forme d'un bouclier. D'ailleurs, le Mauna Loa et le Mauna Kea font 17 km de hauteur. Ça vous étonne, non? Parce que vous savez tous ici que la plus haute montagne terrestre, c'est l'Everest. C'est l'Everest qui culmine à 8848 mètres d'altitude.
Toujours pas le Puy de Dôme.
Non. Mais voilà, je n'ai pas utilisé le même terme. Dans un cas, j'ai parlé de hauteur, dans l'autre, j'ai parlé d'altitude. C'est là toute la difficulté de comparer les montagnes du système solaire. Sur Terre, notre système d'altitude a pour référence le niveau de la mer. Mais sur Mars, par exemple, où il n'y a pas d'océan, on mesure la hauteur des montagnes depuis un niveau de référence martien. Pour les volcans sur Terre, comme sur Mars, on peut aussi mesurer leur hauteur de leur base à leur sommet, ce qui permet de les comparer. Dans le cas de Mauna Loa et de Mauna Kea, les volcans de Hawaï, leurs bases sont immergées et beaucoup plus grandes que leur partie émergée. Donc leur altitude n'est que de 4170 et 4200 mètres, contre 1100 pour le Puy de Dôme.
1465.
Voilà. Donc que de 4170 et 4200 mètres, mais leur hauteur est d'environ 17 km.
Alors en tout cas, je vois que Fred a beaucoup révisé l'émission de ce soir. Je vois que toi, tu as choisi de nous parler essentiellement de Mars. Alors on sait que c'est un petit peu ton terrain de prédilection, mais tu nous parles quand même de volcans éruptifs. Est-ce qu'il y a donc des éruptions à la surface de Mars?
Alors il y en a eu, c'est sûr. Des coulées de lave vieilles de 2 millions d'années ont été observées sur l'Olympus Mons, ce qui est relativement jeune en temps géologique. Par contre, on ne sait pas s'il y a encore une activité volcanique ou sismique sur Mars. Et c'est ce que va tenter de déterminer l'atterrisseur InSight de la NASA qui sera lancé en mai 2018, avec à son bord un sismomètre et un capteur de flux de chaleur allant jusqu'à 5 mètres de profondeur. Cela permettra d'avoir des informations sur la structure interne de la planète rouge, la taille du noyau, de la croûte, du manteau, leur composition, leur état thermique et leur activité sismique. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous a interpellé sur la taille des volcans sur Mars. Ils sont énormes comparés aux volcans terrestres. Est-ce que vous savez pourquoi? Des hypothèses?
Ils sont moins rocheux, ils sont moins denses?
Alors, il y a peut-être quelque chose sur la densité.
L'atmosphère?
L'atmosphère ne va pas jouer un rôle, ça, mais par contre, la gravité de Mars va jouer un rôle. Alors, la différence de taille, elle est due à deux raisons principales. La première, c'est la durée des coulées de lave. Elles sont beaucoup plus longues en raison d'éruptions qui sont plus grandes et comme la gravité est plus faible sur Mars, ça contribue à avoir des coulées de lave qui peuvent durer plus longtemps. Deuxièmement, la croûte martienne ne se déplace pas comme la croûte terrestre. Donc, on va avoir formation d'un très gros volcan au lieu de plusieurs petits volcans comme sur Terre. Donc Hawaï, c'est un archipel d'îles qui sont volcaniques et qui sont en fait, chaque île est un volcan qui a été créé par la même source magmatique dans le manteau. Mais bon, Mars, j'en ai beaucoup parlé, c'est pas le seul endroit où on peut être, où on peut trouver des montagnes, ou peut-être un jour on pourrait aller faire du ski ou de l'escalade dans le système solaire. Il y a plein d'autres grandes montagnes. Sur Io, qui est une des lunes de Jupiter, le Bezoel Mons, je sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça, culmine à 18 kilomètres, pas d'altitude. Le Ionian Mons est à 12 kilomètres et le Ioben Montes à 10 kilomètres. Sur Oberon, qui est une lune d'Uranus, il y a une montagne de 11 kilomètres. Sur l'astéroïde Vesta maintenant, il y a aussi une montagne qui fait 22 km et qui se trouve au centre d'un cratère d'impact. Et sinon, plus près de chez nous, sur Vénus, il y a deux montagnes. Une de formation tectonique, le Skadi Mons, qui fait 6 km de haut, et l'autre de formation volcanique, le Maat Mons, de 5 km de haut. Bref, un choix astronomique pour les prochaines vacances.
Bah écoute, merci Lucie, je pense que tu nous as donné envie de voyager, alors peut-être qu'on va avoir un petit peu de mal même aller au plus près, Vénus c'est quand même pas encore la porte à côté, mais bon, on peut envisager un petit séjour au ski prochainement. En tout cas, c'était une jolie introduction pour parler de la montagne, en allant peut-être un petit peu plus loin, je vous propose de revenir à des questions peut-être plus pratiques. Est-ce que la montagne est un risque pour l'homme, avec nos trois premiers invités, que je vais te présenter du coup de manière beaucoup plus courte, qui sont donc Philippe, Jean-Michel et Olivier.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Le moment débat.
Alors, bonsoir à tous les trois. Merci d'être venus. Alors le but de ces moments débat, c'est que tout le monde puisse un peu se poser des questions. Pareil, il ne faut pas hésiter à vous répondre, tant qu'on s'entend, c'est parfait. Donc pareil, hein, pour tous ceux qui sont en studio, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir attraper un micro et à poser votre question. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur une première question. Ah, vous me laissez la primeur.
C'est
pas sympa, vous avez vu. Hein, ben moi, je vais poser une question très terre à terre. La montagne, un risque pour l'homme. Est-ce que nos montagnes auvergnates peuvent être dangereuses pour les habitants de la région, d'après vous?
Alors, si on parle du point de vue de la volcanologie, on peut considérer qu'à court terme, il n'y a pas de risque immédiat. Les volcans sont surveillés sur tout le globe terrestre, en principe par des méthodes classiques, hein, de surveillance de la sismicité, des déformations, et à ce jour, il n'y a pas de signe précurseur d'une activité prochaine dans la chaîne des Puys, voire dans le Massif central, puisque le volcanisme s'étend du Cap d'Agde jusqu'ensuite plus loin, autour des Alpes, en Allemagne et ailleurs. Hein. C'est le même type de volcanisme, finalement.
Bon, du coup, je suis un petit peu rassurée, mais un peu déçue. Non, mais de manière peut-être plus généralisée, au niveau mondial, est-ce qu'on a de plus en plus de risques, justement, d'éruptions volcanologiques? Est-ce que ça a eu tendance à se... Enfin, peut-être à être moins violent, moins fréquent ces dernières années? J'avoue, moi, j'y connais pas grand-chose, donc...
Disons qu'on peut pas raisonner à la même échelle, quoi. Il faut raisonner à l'échelle des temps géologiques. On parle plutôt en centaines de milliers, et plus sûrement même en millions d'années, en dizaines de millions d'années. Donc si on regarde un peu plus loin dans le temps, oui, il y a des très grosses éruptions, ce qu'on appelle des super éruptions qui résultent de l'activité de super volcans. Alors il y en a plein, hein. il y a Longue Vallée Caldera et d'autres. Récemment, on a parlé de l'éruption du Toba en Indonésie. Et donc ça, ce sont des très gros volcans qui forment en quelques jours des éruptions, qui produisent plusieurs dizaines à centaines, voire milliers de kilomètres cubes de produits qui sont émis par le volcan. Et donc là, on a plusieurs décennies, siècles de perturbations climatiques majeures. C'est-à-dire que on sait qu'elles elles amènent des catastrophes écologiques majeures. Mais elles sont, du fait de leur dangerosité et de leur énormité, très très rares sur Terre.
Alors ça, c'est peut-être un niveau, du coup, assez global en volcanologie. Peut-être une question plutôt pour les deux autres invités, mais quand on pratique justement tout ce qui est sport de montagne, notamment la spéléologie, est-ce que il y a beaucoup de dangers et est-ce que il y a beaucoup d'accidents? Peut-être.
Alors, ben non, il n'y a pas énormément d'accidents en spéléo, bien heureusement. Après, ben ça dépend aussi des niveaux de pratique. Hein. C'est comme la piscine, comme tout. Je veux dire, il y a des gens qui sont spécialisés. On peut aller simplement faire de la visite souterraine ou alors faire de l'exploration, et c'est pas du tout la même chose. Alors après, pour, je dirais, en termes de nombre, si on peut donner un chiffre, c'est moins d'une dizaine par an.
Ah oui, ouais. C'est vraiment par rapport à d'autres sports, c'est quand même. Finalement,
ah ben, vous avez plus de chances de vous faire mal en jouant au foot que de vous faire mal en faisant de la spéléologie. Il y a aussi beaucoup moins de pratiquants, bien évidemment. Donc c'est ce qui minore un petit peu les statistiques, on va dire.
D'accord. C'est vrai qu'il y a d'autres sports peut-être un petit peu dont on parle un peu plus en ce moment. Hein. Je pense au ski avec les problèmes d'avalanche.
Alors oui, pour revenir à votre question de tout à l'heure, je dirais qu'en Auvergne, la difficulté, c'est pas forcément l'altitude ou la complexité, par exemple, pour la randonnée, mais ce serait peut-être plutôt la météo, par exemple, parce qu'on a une météo très changeante en Auvergne, et rapidement, on peut se retrouver avec des conditions de haute montagne, donc c'est plutôt à ça qu'il faudrait peut-être faire attention.
D'accord.
Et du coup, donc là, on voit aussi que il y a des accidents. Vous en parlez, mais est-ce que c'est vraiment finalement la montagne qui est dangereuse dans l'absolu, ou finalement c'est peut-être juste notre comportement, notre insouciance qui fait que on se met en danger dans cet environnement?
Bon, insouciance, non, je pense pas pour les gens qui pratiquent couramment. Je suis le témoin d'un accident d'il y a tout juste un mois. Il s'agit de moi-même. J'étais parti en exploration, vous en avez tous entendu parler au travers d'FR3, notamment régional et national. C'était pour ressortir de la caverne, environ 2 bonnes heures, je dirais, de crapahut physique. La caverne étant relativement compliquée dans son cheminement. Eh bien, je me suis fait une déchirure musculaire, ce qui est assez banal, finalement, hein, sportivement parlant. J'ai fait d'autres sports, notamment de l'athlétisme, où je me suis de multiples fois blessé de la même manière. Eh bien, j'avais à peu près une heure pour ressortir en étant physiquement correct. Eh bien, ça a été 14 heures de civière et 59 personnes pour me tirer de là.
D'accord, donc oui, mais effectivement, je pense qu'il y a des fois où, enfin voilà, c'est l'accident qui arrive à tout le monde et spécialiste pas spécialiste. Mais après, c'est vrai que des fois, enfin parce que souvent là, on l'entend sur sur des événements, sur aux infos, mais aussi là, on va l'entendre au ski.
Le hors-piste.
Jackie qui a été faire du hors-piste alors qu'on avait dit à tout le monde que c'était très dangereux et que finalement, ben voilà, on se met en danger aussi. Alors que là, la montagne était peut-être pas dangereux sur des endroits qui étaient prévus pour faire du ski à ce moment-là, quoi.
Alors, en effet, vous avez raison. Il y a beaucoup de gens comme Jackie.
Il y a aussi Jeannette.
On s'excuse auprès des Jackie.
Qui s'engagent en montagne sans en connaître les risques, parce que malgré tout, c'est un terrain naturel et bien évidemment, ça impose de la connaître. Et d'être humble face à cette nature qui nous entoure et qui, du coup, peut être en effet dangereuse pour l'homme. Voilà.
Après, quand on parle de risque, ce qui est important, c'est peut-être de redéfinir le risque, cette combinaison avec l'être humain et puis les phénomènes, et regarder les phénomènes dans leur dimension temporelle. Et quand on réfléchit à la présence humaine, c'est parfois cet homme qui oublie que certains phénomènes étaient présents avant. On pense aux coulées de lave ou on pense même aux coulées de boue quand on est en Auvergne avec des coulées de boue qu'il y a eu sur le massif du Sancy il y a 20-30 ans avec des gros épisodes orageux. Et aujourd'hui, ce sont des phénomènes qui peuvent revenir. Donc quand on s'intéresse à la montagne est-elle dangereuse pour l'homme, c'est non seulement, comme le dit Antoine, la pratique que va faire l'homme sur ou dans cette montagne, mais c'est aussi à un moment donné comment est-ce qu'on lit son activité ou sa présence sur la montagne en oubliant parfois qu'il y a eu d'autres phénomènes précédemment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ça comme phénomène très rapidement quand on pense à l'Auvergne et à ces dangers? On a parlé éventuellement de coulées de boue, d'éruptions volcaniques. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça historiquement?
En montagne, il y a tout, hein. Il y a les glissements de terrain, il y en a des remarquables à proximité du Mont d'Or, hein. Les Égravats, c'est un nom qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'un pan de la vallée, une vallée glaciaire, donc qui est en U, qui s'est effondré et qui a engendré des dégâts notables et qui est aujourd'hui occupé par une vingtaine, voire un peu plus de chalets. Donc ils sont directement soumis à un possible futur événement. Donc oui, il y a des risques autres que les éruptions ou que les phénomènes météo, parce qu'effectivement ils sont, comme le disait mon collègue, très très dangereux. Enfin, les risques sont très présents en Auvergne à cause de cette position particulière des montagnes, hein, qui sont la premier obstacle depuis l'océan, et les conditions changeantes, on les a tous connues, quoi, même sur la chaîne des Puits, alors qu'elle culmine, oui, à 1465 mètres.
Donc, en tant que tel, on peut dire que la montagne n'est peut-être finalement pas dangereuse. Ça va être les dangers associés à certaines manifestations sur cette montagne. Et à un moment donné, c'est aussi comment est-ce que l'homme est présent par rapport à ces dangers. D'où, pour des labos comme le MAV, sûrement essayer de prévoir, non pas de prédire, mais bien de prévoir ces différents dangers. Et ensuite, de donner des indications sur l'implantation humaine pour que ce risque soit le plus minimum, enfin en tout cas qu'il y ait moins de risques possible. C'est comme ça qu'on peut définir.
C'est exactement ça. En fait, le risque, c'est la combinaison de l'aléa, c'est-à-dire le phénomène naturel et de l'enjeu. Alors l'enjeu, c'est un terme barbare, mais c'est à la fois l'homme et les enjeux économiques, hein, les voies de communication, les ressources économiques, que ce soit les champs cultivés ou les usines. Donc une fois qu'on connaît bien l'aléa, et ça c'est notre métier, on peut proposer un bilan. Alors, qui est sous forme de carte, hein, pour faire simple. Ça, c'est ce qu'on doit transmettre à une autorité, une carte d'aléa, qui va permettre ensuite de gérer, d'un point de vue socio-économique, une sorte de balance entre finalement la nécessité de vivre. Si on prend la plupart des volcans sur Terre, sont très fertiles, donc sont source aussi de produits qui vont servir à la vie, voire à la survie des populations. Donc après une éruption en Indonésie ou ailleurs, les paysans ou les villageois se réinstallent très vite sur les flancs des volcans, parce que c'est la source de leur alimentation première. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de minimiser le risque en les évacuant, par exemple, donc en proposant des des plans d'évacuation, mais ça, c'est le rôle de la protection civile, enfin des structures, des autorités, hein, qui doivent le faire en concertation avec les scientifiques qui, eux, parlent du phénomène naturel.
Alors du coup, ça c'est votre conseil de manière générale pour les populations à l'État. Peut-être pour finir, si vous avez un conseil aux pratiquants sportifs pour se prémunir des risques contre la montagne.
Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut préparer sa course méticuleusement et surtout s'engager dans quelque chose où on se sent capable d'aller au bout et tout simplement quoi.
Voilà. Bah merci pour tout. Et ben on se retrouve juste après une petite musique pour la deuxième partie du débat. L'homme. Cette fois, l'homme en risque pour la montagne.
Gasti Belzalom à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille Mograbine dans Tecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
C'est bon, on a repris l'antenne, tout va bien. Du coup, Fred a été très déçu, il voulait faire une déclaration d'amour à France Gall ce soir. À la place, il a choisi de passer une déclaration d'amour de Brassens à la montagne, Gasti Belza. Et il me regarde pas content.
Si, montagne, je t'aime.
Ah, tu compares France Gall à une montagne.
Passons au débat.
Bon, alors sinon, il est actuellement 18h29, vous êtes toujours sur Radio Campus pour C'est Grave Doc, l'émission de l'association Doc Auvergne. Et ce que je vous propose pour attaquer la deuxième partie de cette émission, c'est de laisser le micro à notre jeune docteur en écologie, Monsieur Vernet.
Les dames nature, elle en pense quoi?
Bien le bonjour à tous, amis montagnards. Ah, n'a-t-on pas fait plus bel environnement que la montagne? Une passion amoureuse ne peut que nous envahir devant tant de beauté, mais aussi pour l'aventure sauvage qu'elle peut représenter. Le climat y est rude, les accès au sommet parfois compliqués et de nombreux accidents y ont lieu, parfois tragiques, lors d'avalanches, d'escalades ambitieuses, d'orages parfois très durs. Mais qu'en est-il des espèces végétales et animales qui sont implantées au milieu de ces cimes, de ces pierriers, de ces lacs? Comment la nature s'est-elle adaptée aux conditions bien particulières de ce milieu? Je vais tenter de vous expliquer comment, par exemple, la silène à colle, de la famille des Caryophyllacées, qui est une petite fleur, arrive à se développer parfois autour de 3700 mètres d'altitude, où les températures sont très froides, les sols très fins et donc pauvres en eau et en nutriments. Ajoutez à cela un vent parfois très fort, asséchant encore un peu plus le milieu. Et pourtant, elle est là, cette toute petite fleur violette, mais jamais seule. En effet, celle-ci se développe selon une formation dite en coussin. C'est en effet un rassemblement de nombreuses silènes, très serrées et de faible taille qui leur permet de survivre. Leur faible taille limite bien entendu l'exposition au vent, mais c'est aussi une stratégie pour faire face à la pénurie de nutriments et d'eau, car plus l'organisme est important en taille, plus ses besoins sont importants pour l'entretien de l'ensemble des parties de l'individu. Pour ne pas faire dans le cliché, ça serait comme comparer l'assiette de Teddy Riner et celle de Passepartout. On comprend bien que c'est pas tout à fait les mêmes budgets au self. Au-delà de la taille, cette formation très serrée de plusieurs individus leur permet d'augmenter considérablement la chaleur dans le micro-environnement créé. La température prise par les scientifiques à la surface du coussin peut atteindre 20 degrés à midi, alors qu'à 2 mètres du sol, la température est de 10 degrés. De même, en hiver, les conditions thermiques sont plus douces en surface du coussin, ce qui permet de maintenir l'organisme en vie l'hiver et de permettre la croissance l'été. Les différentes enzymes des plantes, des protéines qui permettent le métabolisme, ont besoin de températures clémentes pour fonctionner efficacement, conditions que les silènes ont recréées grâce à leur coopération. On parle de mutualisme, chaque plante tire profit de la présence de l'autre. Enfin, cette forme en coussin, arrondie, présente aussi l'avantage de n'exposer qu'un minimum de surface des feuilles. La sphère est la forme géométrique au plus faible rapport surface-volume. Donc exposé au vent, cet aménagement permet donc de minimiser l'assèchement des feuilles en évitant de puiser abondamment dans la ressource hydrique par exemple, qui est, rappelons-le, très limitée dans ces milieux. Alors, un univers hostile la montagne? Pensez-vous, un peu de chaleur florale et ça repart. Une autre plante peut-être encore plus célèbre, l'Edelweiss de la famille des Astéracées, fait également le bonheur des randonneurs. Elle pousse généralement entre 2000 et 2500 mètres d'altitude sur des terrains calcaires, ensoleillés, mais exposés aux mêmes contraintes que la silène à col. L'une des caractéristiques de cette fleur correspond à ses pétales blancs, duveteux, relativement poilus. Cela permet à la plante de conserver une certaine humidité l'été, quand le temps est sec, en bloquant une couche humide à sa surface. Cela limite la transpiration de la plante. L'hiver, ce film représente aussi un bon isolant thermique pour faire face au gel. La petite taille de cette fleur lui permet également de profiter de l'effet tampon de la couche de neige l'hiver, limitant les fortes variations de température. Enfin, la couleur blanche est un avantage certain pour cette plante, lui conférant des valeurs d'albédo relativement fortes, c'est-à-dire la fraction d'énergie solaire qui est renvoyée vers l'atmosphère. Or, le blanc, on le sait, absorbe moins d'énergie que le noir, ce qui la protège donc des UV. Et nos amis les marmottes, qui ne font pas que mettre le chocolat dans le papier d'alu, mais qui en plus se sont elles aussi adaptées au froid. Vivant entre 1200 mètres et 2500 mètres d'altitude dans les estives, elles creusent des terriers, encore une fois pour profiter de l'effet tampon du sol qui atténue les différences de température. C'est aussi un excellent endroit où dormir tout l'hiver, grâce à une excellente fourrure isolante et de chouettes réserves de graisse, du coup on sait où il arrive le chocolat, eh bien elles peuvent hiberner en famille. C'est important la famille, car lorsque les marmottes hibernent, leur métabolisme est très ralenti, et de fait leur température corporelle descend énormément. Dormir à plusieurs permet donc d'élever la température à l'intérieur du terrier et économise donc l'énergie de chacun en mettant en commun, partageant l'énergie thermique que chacun fournit. Ces exemples montrent combien les espèces locales, montagnardes, ont su évoluer afin de s'adapter à ces milieux hostiles qui représentent beaucoup de risques pour nous, mais pour lesquels de nombreux organismes sont très bien adaptés. Ils occupent alors des niches écologiques non accessibles à d'autres fleurs et bestioles, incapables de tolérer ces niveaux de stress environnementaux. L'exemple de la silène et de la marmotte montre également la force du collectif, du rôle des interactions positives entre individus dans des situations où les conditions demandent de l'entraide pour survivre. Ce qui a d'ailleurs dû échapper à M. Macron quand il a dit « et pourtant l'image aurait pu être belle ».
Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole.
Il oublie que dans la cordée, ce n'est pas le premier de cordée qui est important, c'est la corde. Le premier ne risque pas grand-chose car s'il tombe, la cordée le retient. En revanche, enlever les crampons, les piolets, aux autres membres de la cordée et c'est l'ensemble qui tombe alors. Alors prenons exemple sur ces silènes ou les marmottes, quand on appréhende nous, petits humains, la montagne, mais aussi le monde.
Merci Antoine pour cette petite chronique nature, fleurs, marmottes. En tout cas, c'est une belle introduction encore à notre deuxième temps de débat avec Iris et Fanny, où nous allons parler de l'homme, un risque pour la montagne.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Le moment débat.
Alors, merci à toutes les deux d'être venues. En fait, on a fait un plateau masculin, un plateau féminin.
Mmh,
oui,
c'est un peu ça.
Donc, c'est bien, c'est le thème de la boxe. Et du coup, là, bien sûr, je suis sûre que mes collègues vont être un petit peu plus bavards. Est-ce que vous voulez lancer le débat?
Ah, pourquoi on serait plus bavard?
Pourquoi pas?
On est plus bavard déjà.
Oui, mais parce qu'il a fallu du temps tout à l'heure pour vous lancer.
Oui, alors la question, Barbara peut-elle être un danger pour la montagne? Si on lâche Barbara, est-ce qu'elle peut être un danger pour ce milieu naturel, par exemple?
Sachant que je suis toujours blessée et pas très fufute.
Au-delà.
Il faut vraiment répondre à cette question.
Au-delà de la boutade, l'homme est-il un danger pour la montagne? C'était bien ça le propos. En quoi les activités humaines peuvent avoir une influence sur la montagne, le milieu naturel, son évolution?
Non, mais c'était pas bête. Hein. En quoi demain oui, je peux être un danger pour la montagne si je me pointe comme ça?
De façon assez triviale, je sais pas si tu te balades en montagne et que tu jettes certains détritus, par exemple.
Non, ça, je suis écolo. Voilà. Donc ce sera Jackie, ce sera pas moi.
Tu jettes que le trognon de pomme ou quelque chose comme ça. Tu peux modifier, tu peux façonner un petit peu différemment la montagne. Et je pense que toutes les activités humaines, on parle souvent, revient un petit peu le côté nature, campagne. Et c'est un peu le même débat avec la montagne, ce côté très préservé peut-être. Mais en fait, on l'a façonné depuis des années et des années. Moi, donc t'as parlé de mon sujet barbare de thèse sur les prairies. Les prairies, c'est un environnement typiquement anthropisé, en fait, parce que c'est plutôt une forêt qu'on aurait si on laissait la nature faire. Et la prairie, en fait, est un peu l'aboutissement d'une interaction entre les hommes et la montagne et la nature.
De manière peut-être plus prononcée, moi, je pense au tunnel. Est-ce que ça génère des risques importants, je sais pas, de petits écoulements de pierre, enfin quand on prend la route, on voit il y a toujours les espèces de petits fils là pour arrêter les cailloux, enfin il y a des fois d'ailleurs ça fait un peu flipper parce qu'il y a quand même des gros cailloux derrière le filet. Est-ce que ça à terme ça peut être préjudiciable justement aux montagnes et engendrer des risques plus importants?
Bah, c'est certain que lorsqu'on modifie l'environnement naturel, c'est sûr qu'il y a des conséquences, forcément. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est tunnel et puis tout ce qui est, en fait, arrachement, quoi, de la falaise, c'est sûr qu'après, on va devoir mettre en place des dispositifs pour retenir les parois, qui ont des conséquences, alors plus ou moins directes. Soit on met en place, comme vous l'avez dit, des filets pour réduire les éboulements, les choses comme ça directement. Après, dans les lieux, je pensais notamment à une autoroute qui est réputée pour être l'autoroute la plus chère du monde. C'est pas une autoroute, c'est une route, la route du littoral à La Réunion, qui est régulièrement, en fait, qui a été construite à même la falaise, et qui est régulièrement, en fait, refaite, justement, parce qu'il y a énormément d'éboulements, de glissements de terrain.
Comme un combat entre... Voilà. L'homme qui veut passer et la nature.
Qui va absolument passer là parce que, effectivement, ailleurs, c'est très, très escarpé.
Mais au-delà de ça aussi, du coup, tu stimules en quelque sorte, avec un tunnel, forcément, tes aménagements urbains, tu vas stimuler le passage. Donc, tu vas créer un peu plus d'influence de l'homme sur ces milieux. Donc, après, on peut parler aussi pollution, tout simplement. L'augmentation du CO2 dans ces endroits-là a des conséquences sur la végétation, ce genre de choses.
Et du coup, est-ce que cet environnement montagneux, il est plus sensible que d'autres? Et pour mettre un exemple concret, enfin, je sais que par exemple l'année dernière, on n'avait pas de neige dans le Sancy ou dans les Alpes, et qu'on a eu la bonne idée de se dire charger en canon à neige comme des ânes, alors qu'on sait que finalement, c'est consommer de l'eau, c'est aussi rendre encore plus sec, enfin de la pollution, c'est de l'énergie qu'on consomme, c'est un peu se tirer une balle dans le pied finalement. Et est-ce que cet environnement-là a plus de risques de changer rapidement ou que d'autres environnements?
La question ultra technique.
C'est vrai.
Non, mais je sais pas, est-ce que c'est très sensible? Souvent, on en parle, on dit la montagne, on dit la mer, on dit rarement la campagne. Donc, je sais pas, peut-être que...
Sur les prairies alpines, on avait des questionnements justement là-dessus. Moi, j'ai pu travailler là-dessus à Grenoble, sur ce qu'on appelle résistance ou résilience, un petit peu des prairies. Et on a tendance à dire, elles sont issues quand même d'une grosse adaptation à des conditions climatiques très contraignantes déjà. Donc, est-ce que ces espèces-là sont plus ou moins sensibles? On observe des remontées de certaines espèces, là, plutôt liées donc au réchauffement, en fait. Et donc, ils vont chercher des températures un petit peu plus basses en montant en altitude. Ce qu'on a constaté, c'est qu'elles sont plutôt assez badass, ces prairies, elles sont plutôt assez résistantes. On a du mal à les faire changer. Et en fait, quand on parle réchauffement climatique, c'est pas tant la température, c'est notamment les baisses de précipitations et ne pas avoir le couvert neigeux. En fait, si on a la neige, au moins la prairie qui est dessous reste à 0 degré. Et en fait, avec moins de précipitations, on a plus vite des prairies qui sont exposées à du gel. Et donc ça a des grosses modifications plus que la température, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a eu des expériences. Moi, j'ai participé à du déneigement de prairies précoces à Grenoble, où on allait, enfin, sur à la vers la Grave, où on allait avec des pelles déneiger des bouts de prairies pour voir un petit peu les conséquences que ça pouvait avoir sur la végétation. Et globalement, elles ont plutôt bien résisté pour ça.
Petite question d'Élodie.
Je voulais savoir, en fait, tout...
Tu ne fais pas parler, toi ?
Si, bah oui, bah...
quoi, tu Alors, Élodie, elle est chargée de projets à Astu Science et elle travaille sur les rencontres montagne-sciences. Puisqu'on ne l'a pas présentée, elle ne voulait pas qu'on la présente
Oui,
tout
voilà,
à
je ne voulais pas parler, en fait. Mais j'ai quand même une question, en fait. J'aurais voulu savoir, parce que maintenant, se développent beaucoup quand même toutes les activités sportives en montagne, le trail, le VTT, et toutes ces activités, forcément, elles doivent avoir une influence sur l'environnement. Et toi, Fanny, qui est accompagnateur de moyenne montagne et scientifique, est-ce que les accompagnateurs de moyenne montagne ont un rôle justement à jouer sur la sensibilisation vis-à-vis de toutes ces activités de loisirs qui ont lieu sur les massifs ?
Alors oui, c'est certain, puisque nous, on est là aussi pour sensibiliser en fait les gens qui ne sont pas forcément habitués à aller en montagne, puisque bon, les alpinistes, tout ça, généralement, ils vont tout seuls ou plutôt avec des guides de haute montagne. Mais nous, les accompagnateurs montagne, on est vraiment chargés de sensibiliser ces gens-là à l'univers et le milieu montagnard. Donc, effectivement, avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire la protection aussi de la nature, le respect de l'environnement, et puis pourquoi on a des dispositifs, notamment, je pense à la chaîne des puits, au puits d'homme, ou alors les dispositifs au niveau du pario, du puits de la vache et de la solace, tous ces escaliers qui sont mis en place, les filets qui retiennent la végétation, enfin pour consolider en fait les puits qui sont en fait des tas de cailloux, quoi. Pour résumer, c'est vraiment ça, les cônes de scorie. Et voilà, donc effectivement, nous, on sensibilise à ça. Après, moi, j'organise aussi des manifestations, en fait, en milieu naturel. Et alors, les manifestations sportives, je connais moins, mais là, on organise notamment une manifestation culturelle qui s'intitule « Les nuits ardentes », un petit peu de pub au passage mois de juin,
évidemment,
qui se passera au Puy-de-Dôme. Et donc, on fait très attention à ça, c'est-à-dire qu'on va installer un gros dispositif sur un milieu naturel. Et l'enjeu principal, c'est vraiment aussi de protéger le site. Il y a d'ailleurs maintenant il y a vraiment un focus là-dessus, quoi, avec tout un système d'aide pour des éco-manifestations, où on incite en fait à faire le tri des déchets, mais aussi des balisages écologiques, avec mise en place vraiment de choses qui sont dans le but de préserver l'environnement dans lequel on fait la manifestation, quoi.
J'allais dire, pour le sport, il y a un petit peu le même dispositif. Enfin, moi, j'ai fait quelques trails et pareil, ils sont passés sur des balisages écologiques, sur des gobelets. Chacun vient avec son petit gobelet recyclable, pas forcément, mais en tout cas son gobelet non jetable, les petits gobelets plastiques. Il y a quand même un petit peu la même chose. J'ai l'impression que ça se développe quand même, cette idée de protéger un petit peu le lieu dans lequel on vit et on fait des activités.
Oui, parce qu'en plus après tu peux avoir deux visions aussi de ça. C'est est-ce qu'il faut partager l'espace comme ça entre tes loisirs et on va appeler ça la nature, ou est-ce qu'il faut sanctuariser des coins, des endroits où on n'a pas le droit d'y aller, ou plutôt partager, avoir des intensités faibles, un impact un petit peu réduit. Il y a tout ce débat là. C'est aussi le cas en agriculture. Il y a des choses derrière ça. Quelle pratique on veut, quelle nature on veut, quelle est notre préférence sur ces choses-là.
Moi, j'avais une question qui portait sur le climat, pour revenir sur le thème précédent. Ce qui est connu, c'est qu'on met des barrages en montagne et on essaye d'en mettre de plus en plus, notamment quand on parle de transition énergétique. Je pense qu'on veut utiliser un peu plus d'énergie hydraulique aussi. Les barrages, ça a tendance. Bon, c'est des ouvrages qui vont déformer la montagne, mais aussi il y a tout l'aspect microclimat qui est engendré par le fait d'ajouter des lacs artificiels. Et donc ça peut complètement changer la faune et la flore d'un endroit. Et donc je voulais savoir si tu avais un petit peu travaillé là-dessus et si, qu'est-ce qui est fait en amont pour préserver en fait les endroits et pour éviter d'implanter des barrages, ou y réfléchir un petit peu plus. bien que ce soit une énergie propre, enfin, ça a des conséquences assez.
Alors malheureusement, non, j'ai absolument pas de recul là-dessus. J'ai, à part avoir lu la lettre de motivation d'une amie qui voulait postuler sur une thèse à Toulouse sur les lacs artificiels naturels et lacs artificiels de barrage. Bien sûr, ça a des conséquences. Et je pense que c'est ce genre de choses. Après, c'est ça fait partie un peu de toutes les politiques du zéro risque et ce genre de choses. Oui, on n'a pas le recul pour dire. Après, il y a certaines étapes où on sait ça, il vaut mieux peut-être le construire dans, de telle façon, ce genre de choses, où là, potentiellement, les scientifiques auront leur mot à dire. Mais après, c'est très souvent politique, ce genre de choses. Enfin, j'avoue. Mais après, du point de vue scientifique, je suis désolée, moi, j'ai pas d'infos là-dessus à te partager.
Si je peux ajouter juste un truc, dans les Pyrénées, ils trouvent ça, enfin, en tout cas, ceux qui vivent et travaillent en montagne, pour eux, c'est une aberration, parce que le minimum de débit que EDF est obligé de laisser pour qui continue à avoir une rivière ou tout ça, c'est vraiment ridicule. Et du coup, effectivement, il y a des pertes en termes de faune, de flore. C'est vraiment très très impressionnant. Je crois que c'est autour de 10% le débit minimum qu'il faut laisser. Donc en général, les types laissent 10%, pas plus. Et là, c'est vraiment un en termes d'écologie, a priori, c'est vraiment un massacre. En tout cas, pour ceux qui vivent dessus. Donc effectivement, après, c'est politique. Hein. Est-ce que
voilà, puis après,
il y a les emplois
très
derrière
dur, en plus,
et qu'est-ce qu'on fait
d'avoir des argumentaires sur ce qu'on appelle un peu les services écologiques et ce genre de choses. Comment tu vas quantifier l'impact que va avoir l'infrastructure, à quel point, comment tu vas monétariser ou pouvoir vraiment mettre une valeur sur telle chose, telle petite espèce végétale qui va disparaître, quel coût ça a. C'est des questions en plus où très souvent les scientifiques face aux politiques ils sont assez démunis parce qu'en plus si on veut commencer à mettre des valeurs là-dessus, tu monétarises la chose et oui, après oui. quelqu'un a toujours les sous pour les acheter.
Oui, mais c'est triste d'avoir des valeurs monétaires sur des espèces qui vont disparaître.
Voilà, c'est ça, mais après enfin comment tu justifies face à des politiques? C'est ça qui est compliqué.
Quand on regarde est-ce que je voulais couper?
Non, mais okay. Je crois que Fred voulait le mot de la fin, mais on peut te laisser le mot de la fin, mais ce sera le mot de la fin.
Ah bon, je prends, je m'en fiche. Non, mais c'est vrai que c'est là où c'est où c'est grave, c'est de se dire que pour une éolienne, on fait des débats à non plus finir, parce que ça, c'est haut, c'est vrai, ça se voit, mais en termes d'impact écologique, c'est quand même bien moindre qu'un barrage, mais
c'est dans les couleurs de migration des oiseaux.
C'est vrai. Bon, mais je dis pas qu'il y en a pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins quand même. Et que
c'est un mot de la fin un petit peu long.
Le problème, c'est que les barrages, ouais, personne les voit. Il y a trois pelés en montagne, et du coup, on se dit que autant les mettre là, et tant pis pour.
Bon, alors les trois pelés, ce qu'on fait, c'est qu'on va les jeter de la cordée, et nous, on va jeter Antoine de l'équipe, et puis en attendant, on vous retrouve juste après une petite musique sympa. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Clermont-Ferrand au 93.3 pour l'émission C'est Grave Doc de Doc Tauvergne consacrée à montagne, science et risques. Et pour la dernière chronique de cette émission, je vais laisser la parole à Guy Coulangeon, président de l'association Livoirien, qui va nous parler de la montagne et du handicap dans Sciences Sensibles.
La science sensible.
Bonsoir.
Bonsoir Barbara.
Alors vous allez nous parler un petit peu de la montagne et du handicap. Je ne sais pas, est-ce que vous préférez que je vous laisse partir dans ce que vous voulez raconter ou vous voulez qu'on vous pose des questions?
Bon, on va faire les deux. Non mais moi j'ai préféré toujours la montagne à la mer. Parce que, bon, pour moi, cette montagne, c'est un esprit de liberté. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la montagne, on ne peut pas y aller n'importe comment. On est obligé aussi, quelque part, de l'apprivoiser, d'essayer de vivre quelque chose, mais avec la montagne. On ne peut pas, là, je dirais, la laisser de côté. Pour mon compte perso, bon, moi, la montagne, je l'ai vécu, bon, entre autres, en faisant du ski de fond en tant que déficient visuel. J'ai aussi fait de l'escalade, mais non encadrée, c'est-à-dire, bon, seul, avec des amis, voilà. Mais je pense aussi que lorsqu'on est en situation de handicap, il faut absolument, lorsque l'on part en montagne, être vraiment bien équipé. Ça, c'est une chose importante et ça, voilà. Et aussi être encadré, parce que bon, quand même, la montagne, il y a le risque tout qu'on n'a pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. Et lorsqu'on est en situation de handicap, on peut pas mettre, je dirais, les pieds n'importe où, bien que bon, nous, nos pieds et nos mains, lorsqu'on fait de l'escalade, par exemple, eh bien c'est important parce que bon, on recherche toujours le point de pour s'agripper qui nous paraît le plus solide. Alors que bon, vous, les personnes qui voyantes, je parle en tant que principalement des aveugles parce que moi je suis non-voyant, vous regardez un peu plus quoi. Nous on regarde pas.
Oui, mais je dirais qu'on a le travers justement de dire qu'on peut voir et de pas regarder et de se casser la gueule. Hein.
Voilà, c'est ça.
Et comment on ressent la montagne quand on voit pas? Parce que c'est vrai que nous, quand on y va et quand on la raconte à ceux qui sont restés en bas ou quoi, on parle des couleurs, des sommets, des bestioles, enfin des oui, tout mais ça.
Ça existe les bestioles.
Ouais. quand on voit pas, comment vous ressentez quand vous faites du ski de fond, par exemple? Comment vous la vivez la montagne?
Alors. Moi, cet montage, c'est cet esprit de liberté. C'est-à-dire que, bon, déjà, on écoute tous les bruits. Et pour nous, les bruits sont tellement importants. Et peut-être des bruits que vous n'écoutez pas. C'est-à-dire, vous allez écouter justement vos bestioles, des choses comme ça. Et nous, on va peut-être écouter des craquements qui existent. La vie de la montagne, quoi. Il y a ça. Moi, ce que je ressens quand je vais dans la montagne comme ça, c'est ce grand vide autour de moi. Ce grand vide et cette paroi qui est là et qui est pour moi je dirais une forme de mer qui je m'accroche après pour pas justement voilà mais c'est ça et puis bon il y a toutes donc ces odeurs ces bruits ce contact physique pour moi c'est ça la montagne mais il faut c'est ce que je disais tout à l'heure il faut faire vraiment attention où on met les pieds et c'est pas au sens figuré c'est au sens propre. Voilà, les pieds et les mains. Et pour moi, c'est ça. La montagne, c'est principalement cet espace de liberté. Et aussi, au niveau de l'air que l'on respire. Parce que on est souvent en ville, les choses comme ça, on respire pas trop bien. Et la montagne, pour moi, c'est ça. C'est me remplir les poumons d'air et d'odeur aussi parce que bon tout à l'heure on parlait des edelweiss et d'autres plantes et de l'herbe ça aussi c'est voilà bon, moi j'aime beaucoup voyager on me dit toujours mais pourquoi tu vas voyager tout le temps comme ça j'ai fait je sais pas moi 14 pays européens et ainsi de suite quoi. Mais pourquoi tu voyages tout le temps tu vois rien j'ai dit mais moi je m'en fous de voir c'est vrai que ça m'ennuie beaucoup mais j'ai tout le ressenti social des gens que je rencontre et le ressenti de la montagne c'est ça c'est-à-dire c'est ce contact physique que j'ai avec elle c'est ce contact de vide autour de moi c'est ce contact c'est pas de solitude je dirais il y a pas de solitude pour moi
Justement, Guy, il est sans doute possible de partir en montagne pour toi seul ou même avec avec ton chien. Mmh. Il t'arrive sans doute aussi de partir en montagne accompagné. Et quand tu parles de montagne, il est beau ce mot liberté. C'est toutes les possibilités qui s'offrent à toi et à tout le monde. Mmh. Et c'est aussi ce que tu viens de dire à l'instant, c'est aventure, aventure partagée. Mmh. C'est ça aussi pour toi la montagne, c'est vivre quelque chose avec quelqu'un. Nous, on peut considérer que c'est quelqu'un qui t'accompagne, mais ce qu'à un moment donné, c'est pas toi qui accompagne quelqu'un pour lui permettre de changer de regard sur ce milieu, de voir différemment les choses, comme tu es en train de nous le faire vivre tout de suite.
Alors, c'est une très belle question, mais alors du coup, je vais vous demander de répondre quand même assez vite, parce que malgré tout, bah oui, il prend beaucoup de temps, non, c'est qu'après, on risque de vous couper à l'antenne et ce serait très dommage, donc je préférais que les auditeurs puissent entendre toute votre réponse. Donc si elle peut être rapide, c'est parfait.
Lorsqu'on est en situation de handicap, entre autres, bon, pour moi visuel, c'est sûr qu'on, bon, moi j'y vais avec quelqu'un et c'est, bon, par exemple, j'ai fait de l'escalade au Baléares dans les rochers, choses comme ça, et les gens ne savaient pas que j'étais aveugle. Alors ça leur a foutu vachement les trouilles, quoi, quand ils ont su en bas que j'étais aveugle, quoi. Mais voilà, quoi. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi je fais très attention à moi et aux autres. Mais et c'est sûr que les gens qui sont avec moi, eh ben, on prennent souvent des repères, par exemple. Voilà, pour lorsqu'on fait de l'escalade, bon, moi je sais où je mets les pieds et les mains parce que j'ai pas le choix. Et les gens, je leur explique aussi que bon, il faut aussi faire attention, pas uniquement visuellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le tactile. Là. C'est vrai que c'est quelque part un peu charnel, hein, même si souvent des fois la roche est froide. Voilà, la roche est froide, mais c'est aussi un moment charnel, c'est ce ressenti. Voilà, c'est la montagne pour moi, c'est le ressenti.
Ben merci beaucoup. Du coup, on retiendra que la montagne, c'est une histoire de rencontre, comme vient de me l'écrire Fred, pour avoir son mot de la fin. Ce que je vous propose pour en savoir plus, c'est d'aller aux rencontres Montagne et Sciences ce vendredi à partir de 20h30, mais venez plutôt à 19h30 parce que c'est souvent plein, c'est grand public. Et pour le lieu, d'ailleurs, j'ai un gros doute, tu me l'as pas mis?
Maison de la culture, Maison entre de la culture, rue Abbé de l'Épée.
Donc on espère vous retrouver nombreux, parce que je vous rappelle que cette émission, elle était en partenariat avec les rencontres Montagne et Sciences. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et je vous remercie encore d'être venus pour tous les invités.